Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous nous emmenez en Italie. Au Moyen-Âge, les cités-états italiennes étaient les leaders de la révolution commerciale de leur époque.
Oui, on y a imaginé des solutions dans le domaine du commerce et de la finance qui furent progressivement copiées et adoptées par tout le reste de l'Europe. Cependant, à partir du XIIIe siècle, il s'y est produit une série de phénomènes politiques étranges et concordants. Un peu partout, ces petites républiques semi-démocratiques ont voté le transfert de tous les pouvoirs à un prince. Elles ont renoncé à leurs institutions républicaines pour confier leur destin à des autocrates. Pourquoi ? Eh bien, pour Daron Acemoglu et James Robinson, qui se sont penchés sur cette énigme, la réponse est simple. Les peuples, voyant qu'ils ne pouvaient pas résister à l'ascension de la noblesse, ont donné tous les pouvoirs à un seul homme, afin qu'il les protège de son autorité. La leçon, c'est que les peuples sont disposés à abandonner la démocratie s'ils constatent qu'une élite s'est emparée des institutions. Eh bien, c'est le processus qui, de nos jours, provoque le populisme. Acemoglu et Robinson, le premier professeur d'économie, le second de relations internationales, viennent de co-signer un livre intitulé « Prospérité, puissance et pauvreté », sous-titre « Pourquoi certains pays réussissent mieux que d'autres » et il vient de paraître aux éditions Marcus Haller. Le populisme, selon eux, comporte trois caractéristiques principales. Il est anti-élitiste, anti-pluraliste et exclusif. Sa formule politique consiste à bâtir une coalition des mécontents en promettant au peuple de le défendre, non seulement contre les élites, mais contre les autres, ceux qui n'appartiennent pas au vrai peuple. Il y a trois bonnes raisons de considérer que le populisme n'est pas une bonne chose, poursuivent les auteurs. Primo, il mine les institutions démocratiques et les droits individuels. Deuxio, il mène à une concentration excessive du pouvoir. Tertio, ses performances économiques toujours médiocres mènent à une raréfaction des biens publics. Or, ajoute-t-il, nos démocraties occidentales dans leur ensemble pâtissent d'une situation particulièrement favorable aux appels des populistes. Les peuples soupçonnent, non sans raison, que les distances sociales se sont creusées et pas seulement les inégalités de revenus et de fortune. Le nombre de gens qui sont insatisfaits du fonctionnement des institutions existantes ne cesse de croître. Aux États-Unis, les gens estiment que les élites, non contentes de n'avoir pas anticipé la crise financière de 2008, avaient baissé les bras face à la mondialisation et au choc commercial chinois. Et c'est pourquoi ils ont donné la présidence à Trump. En Europe, ils ont l'impression que les institutions de l'UE avaient été dépassées par la mobilité du travail et les crises des réfugiés.
Mais alors que faire, Brice, pour apaiser ces craintes, en tout cas selon vos deux auteurs ?
Pour défaire le populisme, écrivent-ils, on doit reconnaître que le populisme n'émerge sérieusement que lorsqu'il existe des problèmes économiques qui lui servent de levier. Cela signifie être honnête et reconnaître que les définitions de ce qui signifie la citoyenneté doivent pouvoir être librement débattues. Fin de citation, mais surtout, introduire davantage de démocratie dans nos institutions, en particulier des référendums, de manière à ce que les électeurs constatent que leurs problèmes sont pris au sérieux. Il faut en outre mettre en place des mécanismes de représentation parlementaire qui permettent d'obtenir des parlements plus représentatifs des différentes catégories de la population.
Mais le populisme a aussi ses défenseurs, bref.
Oui, prenez Raghuram Rajan, c'est l'ancien gouverneur de la Banque de réserve indienne. Il défend, lui, l'idée que le capitalisme a besoin du populisme pour lutter contre la concentration du pouvoir économique et l'influence politique que finissent inéluctablement par s'octroyer les monopoles, les systèmes capitalistes ont besoin de la critique des populistes. Sinon, eh ben, ils peuvent dégénérer en un capitalisme de copinage tel que celui qui fonctionne en Russie. Les oligarques qui doivent leur fortune à la captation des actifs de l'État dans les années 90 et ils ont pu compter sur l'État pour les garantir contre la concurrence en l'échange de leur soumission politique. On n'en est pas là aux États-Unis où les géants de l'économie numérique doivent leur succès aux économies d'échelle et aux effets de réseau et non pas à la protection politique du gouvernement. Mais en l'absence de concurrence, aussi, eux pourraient être tentés de se reposer sur leur laurier et de pousser un gouvernement à les protéger de toute innovation menaçant leur position. Par exemple, en faisant voter des tarifs douaniers ou des réglementations. C'est aux citoyens ordinaires de s'organiser afin, je cite, que l'État maintienne un capitalisme concurrentiel et empêche son glissement naturel vers la domination d'une poignée d'entités dépendantes de la bienveillance des gouvernements. Fin de citation. C'est ce qui s'est produit aux États-Unis au début du XXe siècle pour démanteler les monopoles et les ententes qui s'étaient créées dans les chemins de fer et dans le secteur bancaire. Il faut, dans leur propre intérêt, faire subir aujourd'hui le même traitement au monopole du numérique.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique donc Prospérité, puissance et pauvreté qui vient de paraître aux éditions Marcus Allaire. On peut évidemment retrouver votre chronique sur le site de France Culture.